C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Dans ces ludiques, direction le futur, un futur lointain puisque la Lune et Mars sont déjà peuplés d'humains. Notre Terre et la planète rouge ont un objectif commun, rendre habitables les 4 satellites de Jupiter qui sont Io, Europa, Ganymède et Callisto. Ils lancent donc le projet Galileo pour l'histoire, hein, c'est le savant italien Galilée qui fut le premier à avoir observé ces 4 satellites dans le ciel en 1610, hein, d'où le nom. Galileo Project est la suite du jeu Ganymède, mais si vous n'avez pas joué à Ganymède, eh bien vous pouvez jouer sans problème à Galileo Project. C'est un jeu de Adrien Hessling, édité par Sorry We Are French. Dans Galileo Project, vous allez incarner une corporation du futur, prêt à tout pour gagner de l'influence et obtenir les meilleurs robots et avoir les meilleurs experts de la Terre et de Mars. On paye en méga crédit, c'est la monnaie qui sera gérée par le casino de Tarek Freeman. À noter d'ailleurs la qualité de l'édition avec des vrais jetons de casino. C'est dans ce casino que tout le monde se retrouve pour faire ses affaires et qui sert de plateau de jeu. Sur celui-ci, on aura une rivière de cartes pour les robots, une pour les humains, une double piste d'influence au milieu. Car on pourra passer de la Terre à Mars et vice-versa. C'est cette piste d'influence qui vous permettra d'avoir les meilleurs robots à disposer autour des 4 satellites. Ces 4 satellites, justement, se retrouvent sur votre plateau personnel avec chacun une piste de progression, mais on va y revenir. Dans Galileo Project, on pourra obtenir le meilleur des technologies. Mais pour ça, il faudra gagner de l'énergie. Vous pourrez également réaliser des projets communs, mais ceux qui les font en premier auront plus de points. Mais alors comment on joue? Eh bien dans Galileo Project, il y a, on peut dire, 3 étapes. La première, c'est changer votre influence. Mais ce n'est pas obligatoire. En gros, vous pourrez passer votre marqueur d'influence du côté de la Terre, bleu, ou de Mars, rouge, en restant sur le même niveau, mais il faudra payer un méga crédit. Pourquoi faire ça? Eh bien vous verrez que les cartes personnages ont 2 actions, l'une pour Mars et une pour la Terre. Deuxième étape, et celle-là elle est obligatoire. Je vais soit recruter un personnage, construire un robot ou développer de la technologie. Si je recrute un personnage, je vais faire son effet de recrutement. Puis après, je ferai soit l'action de Mars, soit celle de la Terre. Parmi les actions, certaines actions donnent un gain tout de suite et on défausse le personnage. Et d'autres vous donneront des points en fin de partie. Attention, au début, on est limité au niveau du recrutement des personnages. Par la suite, la capacité peut s'agrandir. Autre possibilité, construire un robot en fonction de la piste d'influence. Je veux construire un robot de 6, si je n'ai que 5 d'influence, je ne peux pas. Il y a 4 types de robots, les robots seront affectés à un satellite en particulier, ça dépend de votre carte et ils vous feront avancer sur la piste de progression des satellites de Jupiter. Dernière chose à savoir, plus vous en avez d'un même type et plus ils seront puissants. Vous pouvez les améliorer pour pouvoir avancer plus vite sur la piste des satellites. La dernière chose possible à votre tour, c'est de développer une technologie. Il faudra les payer en méga crédit ou en énergie. Elles rapportent des points de victoire en fin de partie ou un effet immédiat, comme récupérer un robot gratuitement. N'oubliez pas non plus, avant la fin de votre tour, de réclamer un objectif si vous l'avez réalisé. Ça peut être avoir par exemple 8 méga crédits ou 4 énergies. Maintenant que je vous ai présenté les actions que vous pouvez faire à votre tour, on va s'intéresser à notre plateau et aux 4 satellites qui vont vous guider dans votre stratégie selon ce que vous souhaitez faire. Alors Io est spécialisé dans la réduction des coûts en influence. C'est pratique pour payer les robots moins chers. Ganymède va vous permettre de recruter plus facilement les personnages experts et parfois gratuitement. Europa se consacre aux avancées technologiques et permet de baisser le coût de l'énergie. Enfin Callisto permet de créer de nouveaux robots et d'améliorer ceux en notre possession. Une chose est sûre, c'est que Galileo Project est un jeu de combo. Je fais ça, qui me fait gagner ça, qui me permet de faire ça et encore ça. Dans Galileo Project, on planifie ses actions pour faire les meilleurs combos afin de réaliser sa stratégie. La partie peut s'arrêter de 2 façons. Soit un joueur a 10 robots autour de ses satellites, soit la pioche de personnages est épuisée. Au niveau du scoring, on va prendre en compte les points de ses satellites sur la piste de progression, les scores des personnages que vous avez gardés, mais attention, pour garder un personnage, il faudra à chaque fois payer un méga crédit. On rajoute à ça les technologies et les projets accomplis. Plus vous allez faire partie et plus vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs stratégiques lors de vos premières parties. C'est un jeu assez rapide pour un expert. En tout cas, les illustrations nous plongent bien dans l'univers et l'édition est soignée de très bonne qualité. On continue d'en parler avec Mathieu Verdier de Sorry We Are French.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Mathieu Verdier de Sorry We Are French. On va continuer cette spéciale Galileo Project. Bonjour Mathieu.
Salut Mathieu.
Mathieu, pour ceux qui connaissent Ganymède, est-ce qu'on est dans cet univers avec Galileo Project?
Alors oui, c'est exactement le même univers. D'ailleurs, on retrouve des personnages dans Galileo Project qui sont dans l'extension Moon de Ganymède. tout simplement parce qu'on aime bien développer nos gammes. C'est pas si facile à faire, mais tant qu'on peut, on le fait. Et d'ailleurs, on va aussi terminer la gamme Immortal Elite 9 avec Gozu X, qui sort le week-end des festivals des jeux, c'est-à-dire à Cannes, c'est-à-dire fin février.
Fin février, d'accord. Alors Galileo, c'est un jeu qui est attendu d'ailleurs depuis Cannes 2022 et qui est arrivé il y a quelques mois. Quel est le retour des joueurs ?
Bon, je dirais comme tous les jeux, il y a des personnes qui aiment, d'autres non. C'est assez difficile à voir, évidemment. Il ne faut pas se focaliser que sur les bons retours, il y a aussi des mauvais retours qui sont légitimes, puisque les personnes ont leur propre opinion. Moi, je ne regarde pas trop les retours parce que c'est pas forcément représentatif. On peut avoir des bons jeux qui sont cloués au pilori, des mauvais jeux qui sont portés au nu.
Ouais.
Donc, le simple fait de dire ça, c'est mon opinion.
Ouais.
Ça ne fait pas avancer le spielblick. Mais voilà, moi, je ne regarde pas trop les retours. Voilà, on verra, on ne contrôle pas les personnes. Et puis, si elles sont contentes, c'est le plus important, en fait.
Ouais, exactement. Alors, on est vraiment dans le futur et la science-fiction, rendre les quatre satellites de Jupiter habitables, hein, Io, Europa, Ganymède et Callisto. Pour les humains, est-ce que vous vouliez un jeu plus expert que Ganymède ?
Pas spécialement, c'est aussi tombé un peu comme ça. Mais c'était pas une bonne idée. C'est toujours une petite progression entre Ganymède. Après, il y a Déméter, Varuna qui sont un peu plus complexes que Ganymède. Et là, on arrive peut-être le dernier, j'en sais rien, sur Galileo Project, qui est plus compliqué. Le plus important, c'est que aussi cet univers, c'est un futur possible. Donc, c'est inspiré à la base de la série The Expanse, parce qu'on est tous fans de cette série, hein, chez soi.
Ouais. Un jeu expert qui ne dure pas non plus 3 heures.
Hein. Oui, exact. C'est un jeu pas si simple à classer. On a eu les résultats des nominations Asdor récemment.
Ouais.
On se disait, c'est vrai que Galileo Project va être compliqué à classer, parce qu'il va être entre initié et expert, pour parler des catégories de l'Asdor de Cannes.
Ouais.
Mais voilà, il ne dure pas 3 heures. Alors, au début, ça peut être plus long, parce qu'il faut comprendre le mécanisme, etc. Mais on va réaliser, après, c'est plutôt un jeu de course. Mmh. Donc, quand on le maîtrise, il va être plus court et les scores plus bas. Donc, c'est étonnant, mais c'est le propre des jeux de course en général qui font des points. C'est les scores sont plus bas parce qu'on fait arrêter le jeu. Par exemple, Ark Nova, qui est un jeu qui est très connu maintenant.
Ouais.
C'est aussi un jeu de course. On arrive à croiser ses marqueurs et normalement, les joueurs, les meilleurs joueurs arrivent à jouer, faire jouer plus vite. C'est pour ça que normalement, quand on maîtrise, c'est plus rapide.
Ouais. On peut jouer à Galileo Project si on n'a pas joué à Ganymède, hein.
Le point commun, c'est la mécanique, en fait, le côté combo ou développement. Si toute cette gamme, en fait, et à partir du moment où tu accumules des éléments sur ton plateau qui sont un peu les mêmes, tu vas faire des effets de plus en plus puissants. Donc, les sensations sont plutôt un peu pareilles dans Ganymede et Galileo Project à ce niveau-là. Pour le côté course aussi, mais par contre, l'interaction est plus forte, je dirais, à Galileo Project, parce que c'est plus facile de prendre une carte, un adversaire, et en plus ça a plus de conséquences comme il y a un petit côté combo. Si vous prenez la carte de votre adversaire qu'on voit, même si pour vous peut-être ça vous représente la moitié d'un tour, mais si votre adversaire ça lui faisait l'équivalent de 3 tours, bah vous lui avez pris un peu des cartes.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet, combien de temps de développement sur Galileo ?
Alors, on a rencontré Adrien Esling, qui est l'auteur de Riflam aussi.
Ouais.
Il nous avait contacté en février 2020, donc juste avant le Covid.
D'accord.
On avait lu les règles, etc. Puis on lui a donné rendez-vous à Cannes. On avait fait pas mal d'échanges. Et il était nommé, justement. On a eu un rendez-vous, en fait, une heure avant la cérémonie des As d'Or.
D'accord.
Un peu vers la fin de la journée pour enchaîner sur la cérémonie. Et du coup, on lui a dit officiellement qu'on voulait faire le jeu. Ça lui a pas mal souri comme journée, puisqu'il a eu l'As d'Or une heure après. Et voilà. L'idée, c'est que oui, on a fait à peu près 2 ans de travail, puisqu'on a envoyé en production en mars pour que ça arrive en octobre. Donc, deux ans de travail, évidemment bloqué avec le Covid au milieu.
Ouais.
Mais oui, je me rappelle passer pas mal de temps à bosser sur le jeu. À l'époque, bon, Covid, on bossait plutôt pendant le Covid, dans le confinement, on bossait plutôt sur la recherche du graphique de Iti. On se rappelle avoir fait pas mal de recherches de visuels pour David Illus Iti, mais comme Galileo Project est arrivé après, c'est plutôt un petit peu après le confinement.
Ouais.
On a beaucoup bossé. Mais c'est vraiment beaucoup de temps. Oui.
Alors, dans Galileo Project, il y a un casino, celui de Tarak Freeman. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, moi, j'en sais pas plus. Hein. C'est un casino fictif. Donc, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé. Je préfère laisser les joueuses et les joueurs imaginer ce qu'ils veulent. Ça leur permet de s'immerger dans l'univers. C'est un casino volant.
Oui, c'est ça.
Je ne peux pas en dire plus.
Alors, la grosse nouveauté, hein, c'est la piste d'influence. On ne peut pas être sur Terre et Mars en même temps. Il faut anticiper ses choix, hein, pour récupérer des cartes robots ou personnages.
Alors oui, on va dire que c'est l'originalité qui se voit, l'originalité un petit peu marketing. C'est-à-dire, évidemment, on va pitcher le jeu sur ça. Mais aussi, pour moi, l'autre originalité, c'est la proposition du jeu. C'est un jeu un peu expert dans un temps court.
Ouais.
C'est aussi assez technique, parce qu'entre personnes qui maîtrisent, une erreur peut être assez fatale, parce qu'il y a très peu de tours, en fait. Par exemple, j'étais à Essen, où on a présenté le jeu, c'était la sortie du jeu, donc pendant 4 jours, on a animé, on avait cette table, vraiment proposer aux joueurs le jeu, et c'est vrai que certaines personnes captent tout de suite le style de jeu, et alors, beaucoup plus vite que les autres. J'ai même une partie où un joueur avait la somme des 3 autres.
D'accord.
Parce qu'il avait compris tout de suite le truc. Parfois, certains comprennent tout de suite pendant la partie, ou alors au bout d'une deuxième, ça dépend. De toute façon, les jeux experts, des fois, on est câblé pour, et des fois, ils nous font une partie, quoi.
Ouais.
Et voilà. Donc, c'est vrai que, par exemple, les gros écarts, c'est quelque chose qui peut être gênant, mais c'est pas grave, en fait, ça arrive, c'est juste une partie. Surtout maintenant, là, sur Galileo Project, c'est un jeu court, on peut en faire une juste après, il n'y aura pas de si gros écarts. C'est le temps de comprendre le système de jeu. Ouais. Ça arrive souvent maintenant sur les jeux experts qu'on essaie de lisser un petit peu pour pas que le joueur soit un peu vexé.
Ouais.
Mais c'est le propre d'un jeu expert de te mettre mal, en fait. Donc, c'est de te forcer à réfléchir d'une autre manière. Donc, c'est pas grave, en fait. Parce que, c'est évidemment, avec la profusion de jeux qu'il y a aujourd'hui, on n'a peut-être pas le temps et donc les jeux sont aussi développés de manière à pas trop créer d'écart pour pas qu'on ait l'impression d'avoir été nul ou mal joué.
Ouais.
Mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux, donc tu te dis j'ai pas envie d'y retourner alors j'ai pris une fessée. Alors, en fait c'est juste un jeu, mais voilà. C'est mon avis sur la question.
Les 4 satellites justement sont reliés au robot et chacun a ses avantages.
Exactement. Alors chaque type de robot, chaque type de satellite a ses avantages, mais en fait dans le jeu il y a autant de cartes pour autant de robots pour chaque satellite.
Ouais.
C'est-à-dire tu vas pas avoir plus de robots pour aller sur Ganymède, etc. C'est croisé. Mais il va y avoir quelques combos. Il y a le satellite Io qui va te demander d'utiliser tes méga crédits pour réduire le coût des robots.
Mmh.
Et évidemment, si tu prends un robot de type mineur qui te donne des crédits, s'il va sur Io, ça va bien avec. Donc, c'est pour ça que dans le jeu, il y a une rivière de cartes avec un surcoût sur les cartes qui viennent plus proches de la pioche. Nous, entre bons joueurs, tu n'as aucun problème de les payer le surcoût si ça permet ta combo dans le jeu. En fait.
Ouais.
Voilà. En fait, ce qui est plus important à analyser, c'est plutôt le coût des robots. Il y a 4 robots. Par exemple, les mineurs sont les moins chers, parce qu'ils donnent des crédits, c'est la monnaie de base représentée par les jetons de poker.
Ouais.
Mais il y a aussi les techniciens qui augmentent le niveau des robots, qui sont les plus chers, parce que, évidemment, les faits les plus puissants.
Ouais, donc oui, c'est sûr que chaque robot a ses avantages. On peut enchaîner,
exactement.
En plus, on peut enchaîner rapidement des combos, mais il faut préparer sa stratégie un petit peu à l'avance.
Oui, alors en fait c'est un jeu de combos, mais je dirais maîtrisé, c'est-à-dire que tu peux faire des combos, mais elles sont pas non plus infinies sur le plateau et sur les robots, donc il faut plutôt arriver à les faire au bon moment. Et il y a aussi quelques coups spéciaux, des coups un peu rigolos à faire, c'est-à-dire que tu peux baisser ou déplacer des robots qui te feraient baisser ton marqueur sur une planète,
ouais.
Et quand tu reviens dessus, tu peux regagner un petit bonus, donc c'est sympa
oui.
de réussir à le déclencher comme on peut. Et en fait, c'est un jeu de combo maîtrisé, et en fait, c'est ce qui a été le plus dur à développer dans le jeu. Ça, c'est certainement un des jeux qui nous a pris le plus de temps.
Enfin, ouais.
Gozu, qui sort après, qui était plus long, mais comme il sort après dans ma tête, il n'est pas sorti. Et c'était vraiment difficile de proposer des combos. C'était un petit peu comme un jeu Roll & Ride, c'est-à-dire que tu vas créer des combos comme un Tréfuté ou même Demeter, qui est sorti chez nous. C'est-à-dire qu'on va, ok, on a une sensation de comboter, etc., mais il ne faut pas non plus. Il faut que cette combo s'arrête à un moment. C'est-à-dire qu'il faut les connaître un peu par cœur. Tu sais qu'il y a des cheminements. Et ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas durer éternellement.
Ouais.
Pas non plus. Que les tours soient trop longs. Et que ça reste gratifiant quand même.
Le jeu mêle à la fois une stratégie, tu disais.
Oui, et aussi de l'adaptation tactique. C'est-à-dire qu'il faut récupérer les bonnes cartes au bon moment. Quitte à payer plus cher, ce n'est pas grave dans ce jeu. Il vaut mieux payer plus cher, avoir la bonne carte. Tout simplement parce que le jeu s'arrête quand on a 10 robots. Donc, si tu prends un robot qui ne te sert pas trop, tu as quand même perdu 10% de ta partie.
Ouais.
Il faut faire attention à prendre, quitte à payer plus cher, ce n'est pas grave. Parfois, c'est mieux.
Alors, plus on va jouer et plus on va comprendre aussi les erreurs à ne pas faire.
Exactement. En général, sur les premières parties, peut-être que les parties, il y a deux manières de terminer la partie. Comme je disais, soit il y a 10 robots chez un joueur, soit la pile, la rangée de personnages est vide. Alors, souvent, au début, ce sera l'épuisant par carte personnage. Donc ça va durer plus de tours parce que évidemment on met du temps à optimiser. Dans ce cas-là, si les parties sont trop longues, certaines stratégies sont plus fortes, mais quand on maîtrise le jeu, évidemment, tout se rééquilibre et ces stratégies qui sont plus intéressantes à long terme n'ont pas le temps de se développer à 100%, ce qui crée justement de la tension. Est-ce que je pourrais faire en sorte de faire durer la partie un tour de plus pour avoir le temps de me développer, mais que mon adversaire ne finisse pas la partie à ce moment-là.
Ouais. Et en plus, les points de victoire sont assez simples à calculer. Il n'y a pas une grosse salade de points, quoi. Hein.
Oui, la tendance actuelle, c'est plutôt ça. Beaucoup de catégories de décompte. Donc ça, c'est une bonne chose, entre guillemets, parce que ça permet de diluer les points entre plusieurs aspects. Et il y a un petit peu de ça dans Galileo Project, mais ça reste mesuré. Tu as les points sur tes satellites qui sont tu les remarques très vite.
Ouais.
Et tu as aussi les objectifs et les personnages. Et puis, il y a aussi les points de technologie, mais c'est vraiment anecdotique. Tu as marqué 2 ou 3 points sur 50 ou 60.
Ouais.
Voilà, il y a 3 lignes de scoring, on va dire, principales.
Alors maintenant, on va parler de tes projets avec Sorry We Are French.
Excuse-moi, je prenais un verre d'eau. Alors, oui, alors chez soi, j'ai un jeu qui sort avec Grégory Grard qui a fait Mot Malin.
Ouais.
Un jeu familial sur le voyage, qui s'appelle Sur les traces de Darwin. Donc, c'est un jeu où on va observer, voyager pour collectionner des animaux. C'est un jeu qui est familial de 2 à 5 joueurs, mais qui a une portée un peu culturelle. C'est-à-dire, dans le jeu, vous aurez aussi un appendice où vous apprendrez des choses sur Darwin, sur tous les animaux qui sont présents.
D'accord.
Donc, on a essayé de voir si on peut développer une gamme comme ça, où on peut apprendre des choses. On travaille chez Hachette, précisément la rousse. Donc, si on peut aussi donner un petit côté culturel au jeu, je trouve que c'est une des façons de rendre le jeu, de faire du jeu un vrai produit culturel. C'est, on peut aussi intégrer. C'est quelque chose que j'aime quand je joue à des jeux, c'est ça me donne envie de m'intéresser au thème.
Ouais.
Si je vais m'enseigner à côté, je vais sur YouTube regarder une vidéo, lire un livre. Ça, parfois, si le thème a été assez bien intégré, tu te dis, ah bah, j'ai envie d'en connaître plus sur l'univers du jeu. Tu prolonges en fait sur quelque chose qui te sert aussi dans ta culture, tout simplement.
Ouais. Vous avez rejoint Gigamic, c'était important pour, mm-hmm. pour la suite du développement de Sorry We Are French.
Alors, on a rejoint Hachette. Gigamic, c'est un distributeur qui appartient aussi à Hachette,
ouais.
mais depuis 2019. Oui, travailler chez Hachette, ça nous permet de continuer à garder notre ligne éditoriale et notre liberté, mais tout en disposant de ressources impossibles à obtenir, c'est-à-dire la trésorerie ou le réseau de distribution. Si on était indépendant, je trouve que c'est super, en fait. On garde la même liberté, on a moins de stress, on peut vraiment travailler comme on peut, comme on le souhaite. C'est-à-dire que ça se ressent maintenant sur nos jeux au niveau qualitatif. Avant, évidemment, tu ne pouvais pas prendre de risque de faire un jeu un peu plus joli ou un peu plus qualitatif au niveau matériel. Maintenant, c'est vraiment agréable.
Et
donc maintenant, le développement, on est passé de 3 à 5 avec une responsable de communication.
Ah oui.
Et un graphiste.
Ouais.
Donc en 2022, on a fait plus de 2 à l'équipe.
Et l'ADN de Sorry We Are French va changer un petit peu, du coup?
Je sais pas. En fait, on va toujours travailler des jeux originaux et on va pas non plus inonder le marché avec la localisation. Ouais, c'est faire 3 jeux par an, 4, une extension comme cette année. Mais l'ADN, c'est surtout de beaucoup travailler les jeux, peu de sorties, mais de proposer le mieux des jeux,
ouais.
le mieux possible, tout simplement.
Quels sont les projets pour terminer de Sorry We Are French? On a parlé d'une sortie donc de Gozu fin février.
Oui, exactement. Alors, on va essayer de sortir plus de jeux parce qu'on n'est sorti que Galileo Project en 2022, mais c'est parce qu'il y a un petit décalage de Gozu de sortir cette année en même temps. Il y a des décollages avec toujours des conséquences de la pandémie qui maintenant
ouais.
peut se résorbe. Mais... Alors, cette année, on a Gozu X qui sort dans 3 semaines, à peu près.
D'accord.
Un jeu très combo d'affrontement pour 2 joueurs.
Ok.
Spécial, un peu de joueurs qui aiment l'affrontement à la Magic avec des cartes et des effets différents. Ça coûtera 30 euros.
Ok.
Ensuite, on a début juin sur les traces de Darwin. C'est un jeu de collection dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
2 à 5 joueurs, 35 euros. Ensuite, vers août-septembre, on va avoir l'extension d'Iki qui s'appelle Akebono.
Mm-hmm.
Akebono, ça veut dire la lumière. C'est le nom de la lumière de l'aube en japonais. Donc, ils ont même un nom sur tous les types de lumière.
D'accord.
Et c'est ce qu'on appelle la lumière de l'aube. Ça va sortir 2 ans après le jeu de base, tout simplement parce que l'auteur est aussi perfectionniste que nous. Donc,
ouais.
c'est bon. Mais bon, voilà, quand ça, ce sera super. Et ensuite, alors là, je ne peux pas citer le nom parce qu'on va en parler mi-mars, un Eurogame très costaud du niveau d'un Great Western Trail.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et ça sort pour Essen, si tout va bien, parce que là, on est dans le travail ergonomique, la fin des visuels, l'écriture des règles, etc. Donc, on est sur la fin du processus. Ce sera 60 euros, je crois.
Donc,
mais ça devrait faire sauter au plafond quelques joueurs experts.
Donc beaucoup, beaucoup de projets en tout cas pour cette année.
Oui, c'est étonnant pour nous. Je crois que c'est la seule année depuis 5 ou 6 ans où on sort 4 jeux.
Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir été ce matin sur Millennium dans C'est Ludique.
Merci Mathieu, à bientôt.
À bientôt, au revoir.